Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso et Anne Albertson, voici les titres de ce mercredi 18 novembre.
Attentat de Paris, les enquêteurs poursuivent la traque de Salah Abdeslam, qui serait le 8e homme des attentats de Paris, et ils n'excluent pas la thèse d'un autre fuyard.
La France veut une coalition unique anti-État islamique. Le gouvernement français présente ce mercredi ses premières mesures d'exception décidées après ce carnage sans précédent. Ce matin, une fusillade a éclaté au nord de Paris lors d'une descente des hommes du raid, plusieurs policiers blessés.
En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, a été convoqué par la justice française suite à une plainte de Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien.
Le monde du rugby en deuil, l'ancienne star mondiale Jonah Lomu, joueur légendaire des All Blacks, dont la carrière a été interrompue par une maladie rénale, est soudainement décédé ce mercredi à l'âge de 40 ans.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco, ainsi que les sports, tout d'abord le journal. En France, sur le volet politique post-attentat, le Conseil des ministres examinera le projet de loi sur la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois, qui doit être voté jeudi par l'Assemblée nationale et vendredi par le Sénat. De leur côté, les enquêteurs sont désormais en mesure de retracer le parcours du groupe de djihadistes avant les attentats et de manière assez précise. Salah Abdeslam est toujours activement recherché par les autorités belges et françaises, mais les personnes en charge des investigations sont sur la piste d'un deuxième fugitif. Notre correspondant à Paris, Christian Panzou.
Ce deuxième fugitif était en compagnie de Salah Abdeslam vendredi soir lors des différentes fusillades en plein cœur de Paris. Les enquêteurs ont retrouvé sa trace grâce aux vidéos de surveillance de la capitale, mais ne l'ont pas encore formellement identifié. Dans le même temps, les perquisitions et les arrestations se multiplient en Belgique, dans le quartier de Molenbeek, mais aussi près d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Sur le plan politique, François Hollande veut riposter avec fermeté. Le président français a déjà ordonné 2 nuits de raids aériens sur la ville de Raqqa en Syrie, le fief de l'organisation de l'État islamique. Et comme annoncé dès le lendemain des attentats, François Hollande tentera de créer une nouvelle coalition avec pour objectif de mener une guerre sans merci à Daesh. Il se rendra à Washington le 24 novembre pour rencontrer Barack Obama et à Moscou le 26 pour convaincre Vladimir Poutine. Tout ça à moins d'une semaine de la COP21 qui est bel et bien maintenue. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Et puis au cours de la nuit, fusillade à Saint-Denis lors d'une opération sous la direction antiterroriste et du RAID. Il y aurait plusieurs policiers blessés. Des individus seraient retranchés dans un appartement. Un assaut est en cours selon le parquet de police français.
Après les attentats, les Parisiens sortent peu, mais certains refusent de céder à la panique et lancent même des initiatives festives. Nicolas Pineau.
Oui, le gouvernement français doit présenter aujourd'hui un projet de loi pour prolonger de 3 mois l'état d'urgence. Le MEDEF, la principale organisation patronale, appelle à bien doser les mesures de sécurité pour ne pas asphyxier l'économie à l'approche des fêtes de Noël. Des Parisiens émus continuent de déposer des fleurs ou allumer des bougies sur les sites des attaques. D'après la Fédération des usagers des transports, la région parisienne a enregistré hier matin 2 fois plus de bouchons qu'un jour habituel. Des restaurateurs ont lancé un slogan hashtag tous au bistrot, appelant les Parisiens à se retrouver dans les cafés. Je suis en terrasse. Un slogan sur le modèle Je suis Charlie se répand également sur les réseaux sociaux. Ils ont les armes, on a le champagne, titre Charlie Hebdo, dont la rédaction a été décimée le 7 janvier dernier. Enfin, le Beaujolais nouveau arrive et pour les connaisseurs, ce cru 2015 s'annonce grandissime.
À signaler également, 2 vols Air France à destination de Paris ont été déroutés hier soir après leur décollage des États-Unis, après des menaces anonymes par téléphone évoquant la présence d'une bombe à bord, a indiqué la compagnie aérienne. Un vol avait été dérouté vers Salt Lake City dans l'Utah après avoir décollé de Los Angeles, tandis que le second parti de Washington s'est posé à Halifax au Canada. Les 2 avions, le vol 65 au départ de Los Angeles et le vol 55 au départ de l'aéroport de Washington Dulles, ont atterri sans problème.
Et sachez que le match de football Allemagne-Pays-Bas a été annulé hier soir à Hanovre, au nord de l'Allemagne, en raison d'une menace d'attentat, sans que la police n'ait découvert d'explosifs ni arrêté de suspects.
La Russie a été un partenaire constructif à Vienne en essayant de créer une transition politique en Syrie. C'est ce qu'a déclaré Barack Obama en référence aux récents pourparlers internationaux en Autriche, malgré les divergences persistantes sur le sort du président Bachar al-Assad.
Le président Obama toujours dénonce l'hystérie régnant aux États-Unis. Le Congrès américain menace de fermer la porte aux réfugiés syriens, brandissant la découverte d'un passeport syrien près d'un kamikaze à Paris. Les Républicains ont annoncé mardi leur intention de suspendre temporairement l'accueil de réfugiés syriens aux États-Unis, contrairement aux vœux de Barack Obama. Le président ne peut même plus compter sur le soutien sans faille des démocrates. La plupart adhèrent à son objectif de 10 000 réfugiés, mais quelques-uns commençaient à céder à la pression.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nigeria, plus de 30 morts dans un attentat à Yola. Une bombe a explosé dans la foule en plein centre-ville dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué la Croix-Rouge et l'Agence nationale de secours. Nous avons décompté jusqu'à présent 32 morts et environ 80 blessés, a déclaré le coordonnateur de l'agence pour Yola, Saad Bello. La Croix-Rouge a donné un bilan légèrement inférieur de 31 morts et 72 blessés.
Addis Abeba abrite les pourparlers de paix entre les rebelles du SPLM de la région du Darfour et le gouvernement soudanais. La médiation de l'Union africaine l'a confirmé d'ailleurs hier, des envoyés du gouvernement. Eric Manirakiza.
Les discussions doivent débuter en fin de semaine à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. La médiation de cette organisation panafricaine espère aboutir à un cessez-le-feu pour faciliter l'aide humanitaire dans les zones rebelles. La durée des pourparlers n'est pas encore indiquée malgré l'assurance d'un porte-parole du SPLM-N et d'un porte-parole de l'Union africaine. Cependant, les précédentes négociations l'année dernière n'avaient pas donné de résultats. Les rebelles combattent les forces de Khartoum depuis 2011 dans les états du Kordofan du Sud et du Nil Bleu, frontaliers au Soudan du Sud. Ces rencontres à Addis Abeba coïncident avec la tentative de Khartoum pour convaincre le SPLM-N et les rebelles du Darfour de rejoindre le dialogue national souhaité par le président Omar el-Béchir en vue de régler les problèmes économiques et insurrectionnels qui sapent la stabilité du Soudan.
Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, a été convoqué par la justice française suite à une plainte de Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien. Monsieur Soro a toutefois démenti. Eddy Issango.
D'après des sources judiciaires françaises, la juge d'instruction Sabine Kéris avait convoqué M. Guillaume Soro le 24 novembre suite à la plainte de Michel Gbagbo pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. M. Soro a démenti auprès de l'AFP avoir reçu une convocation. Il a précisé que le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire ne peut répondre à une convocation qui ne lui est pas parvenue. Il ajoute que les ministères ivoiriens de la justice et des affaires étrangères n'ont jamais été saisis des commissions rogatoires internationales pour qu'il soit entendu dans cette affaire. Accusé du complot, Michel Gbagbo avait été capturé le 11 avril 2011 avec son père Laurent Gbagbo. Il a été remis en liberté provisoire en juillet 2013. Ses citoyens franco-ivoiriens avaient porté plainte en 2012 en France contre Guillaume Soro et les Comzon.
Et pour terminer ici aux États-Unis, le Sénat américain, à majorité républicaine, a adopté mardi deux résolutions annulant les réglementations phares du gouvernement de Barack Obama pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques. Mais le président y mettra son veto. Par 52 voix contre 46, la quasi-totalité des démocrates s'y opposant. Le vote visait avant tout à officialiser l'hostilité de la majorité républicaine aux initiatives du président Obama pour lutter contre le changement climatique, dont les conservateurs contestent le coût économique, notamment dans les régions dépendantes de l'exploitation du charbon.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Tout de suite, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
La Société nationale industrielle et minière de Mauritanie a inauguré mardi le plus grand complexe de production de minerais de fer à Zouérat dans le nord du pays. Le projet GELP 2, d'un financement global de 925 millions de dollars, vise une production de 4 millions de tonnes de fer par an. Il doit offrir 946 emplois directs qui s'ajouteront aux plus de 6 000 salariés de la société. BMW va investir près de 400 millions d'euros en Afrique du Sud pour la production de la BMW X3 troisième génération. La gamme de modèles X représente 28 % de toutes les voitures que nous vendons à travers le monde. Selon Tim Abbott, directeur général de BMW South Africa, la X3 à long terme sera une voiture à forte demande dans des pays comme le Nigeria, le Kenya et la Tanzanie. BMW avait menacé il y a 2 ans de ne plus investir en Afrique du Sud à cause des grèves massives. Les investissements chinois en Afrique ont chuté de plus de 40 % durant le premier semestre, ce qui a entraîné une baisse drastique de sa demande en matières premières. La croissance chinoise a ralenti à 6,9% au troisième trimestre 2015, sa pire performance depuis 2009, faisant chuter le prix des matières premières. Les ressources naturelles du continent africain ont permis d'alimenter la formidable croissance de la Chine, devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique en 2009.
On retrouve les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Tatiana.
Football, on connaît depuis hier soir la liste complète des pays qualifiés pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Zone Afrique.
Oui, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, les Lions de la Teranga ont écrasé 3-0 l'équipe de Madagascar. On écoute la réaction de Aliou Cissé, le coach du Sénégal, au micro d'Amdine Si.
Ce n'est pas le football que vous voulez, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'on passe ce tour-là. Je suis fier de mes garçons, de l'impact qu'ils ont mis. Ils ont pu marquer 3 buts. Maintenant, effectivement, désolé qu'on ne puisse pas jouer comme le Real Madrid ou comme le Barça. Mais je pense que ça viendra. Cette équipe prend trop de buts, cette équipe ne défend pas encore comme moi je le veux. Et il nous faut du temps pour continuer à travailler.
Et puis Bagassi, les étalons du Burkina Faso se sont qualifiés hier en battant au match retour le Bénin par 2-0. Réaction de l'entraîneur des étalons du Burkina Faso qui a eu maille à partir avec les supporters qui demandaient et qui n'ont finalement pas eu l'entrée d'Alain Traoré. Guernot Ror au micro de Salif Kabore.
Je n'ai aucun problème avec Alain, je l'aime bien même. Et on est là pour l'aider, pour lui faire retrouver le bon chemin. Sur la voie d'un retour d'un joueur professionnel qui joue dans son club. Et je comprends parfois déception quand il n'est pas aligné dans le 11 type. Je le comprends parce que moi aussi j'étais joueur et je voulais jouer. Cette réaction-là, ça peut arriver. Seulement, bon, c'était plus le moment, une fois qu'il n'était pas tellement motivé pour rentrer dans ce match, de faire ce changement. C'est tout ce qu'il y a eu. Il n'y a pas d'histoire. On a besoin d'Alain Traoré parce que c'est un grand joueur. On attend qu'il soit dans son club, capable de jouer et de retrouver le rythme. Nous ne pouvions pas aligner trop de joueurs sans compétition.
À Kigali, le Rwanda a été humilié 3-1 par la Libye. 0-0 entre le Cameroun et le Niger. Le Cameroun s'est qualifié, bien sûr. Le Ghana a battu les Comores 2-0. Même score pour le Nigeria face au Swaziland. 2-1 pour le Congo face à l'Éthiopie. L'Égypte a écrasé le Tchad 4-0. L'Afrique du Sud a dominé l'Angola 1-0. La Côte d'Ivoire a dominé son voisin, le Libéria, 3-0. La Tunisie a eu raison de la Mauritanie 1-0. Et au stade Mustapha Thiaker de Blida, la sélection algérienne s'est imposée largement face à la Tanzanie 7-0. 2-0 pour le Cap-Vert face au Kenya. Même score pour le Mali qui affrontait le Botswana à Bamako. Ces équipes qualifiées, il faut le dire, pour le troisième et dernier tour seront versées dans 5 groupes de 4 pays. Match prévu donc entre le 3 octobre 2016 et le 14 novembre 2017. Les 5 vainqueurs de groupe se qualifieront pour la phase finale de Russie 2018.
Claude Leroy quitte son poste de sélectionneur des Diables Rouges.
Oui, le Français a annoncé son départ hier soir, juste après avoir qualifié le Congo. Après 2 années formidables, j'ai décidé de partir vers d'autres aventures, a dit le sorcier blanc après la victoire contre l'Éthiopie, 2-1 à Brazzaville. Et puis Tatiana, pour terminer, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Milwaukee s'incline face à Washington 86-115. Brooklyn l'emporte de 90 points à 88 sur Atlanta. Détroit également vainqueur avec 104-99 pour Cleveland. Oklahoma City a mené 114-122 face à Memphis. Minnesota gagne 103-91 face à Miami. New York l'emporte 102-94 face à Charlotte. La Nouvelle-Orléans perd 98 points face à 115 pour Denver.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Toujours avec vous, Tatiana Mosso, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Suite aux attentats de Paris, les réfugiés ne doivent pas être transformés en boucs émissaires, a déclaré aujourd'hui le HCR, craignant que l'Europe revienne sur ses programmes de relocalisation des migrants. La majorité de ces réfugiés en provenance de la Syrie ou de l'Irak fuient justement l'extrémisme et le terrorisme. Ce sont les premières victimes des terroristes qui ont perpétré les attentats de Paris, a dit à VOA Afrique le porte-parole du HCR pour l'Europe, William Spindler, soulignant qu'il est donc temps d'augmenter les voies légales pour recevoir les personnes en détresse.
Il faut se rappeler que l'écrasante majorité des personnes qui arrivent en Europe fuient la persécution ou les conflits et qui n'ont pas d'autres alternatives pour trouver la sécurité. Et ils fuient justement le terrorisme perpétré par ceux qui sont responsables des attentats de Paris. Partout, il y a eu des réactions en Europe, aux États-Unis, etc., de la part de certains politiciens qui préconisent de mettre fin au programme actuellement en œuvre, les responsabilités acquises par les différents gouvernements pour gérer la crise des réfugiés. Ça nous préoccupe parce que justement, ils tentent diaboliser les réfugiés en faisant des amalgames entre les réfugiés et les terroristes. Et c'est justement ces programmes de réinstallation ou de transfert dans des autres pays qu'il faut faire pour diminuer la possibilité des problèmes de sécurité. Et justement, c'est cette alternative légale pour accéder en sécurité qu'il faut faire. Au lieu de la situation qu'on a dans l'instant, qui est une situation pratiquement chaotique, où c'est les personnes qui arrivent eux-mêmes par leurs propres moyens. Il faut savoir que les réfugiés vont continuer à arriver et c'est aux États à décider s'ils vont arriver d'une manière organisée, légale, ou s'ils vont arriver par leurs propres moyens, qui peut avoir plus de risques. Et de cette manière, ils auront moins de dangers eux-mêmes de souffrir des dangers en route, mais aussi les pays qui vont les recevoir auront aussi beaucoup plus de sécurité parce qu'on aura beaucoup plus de contrôle sur les personnes qui arrivent.
Alors le HCR insiste sur le fait de préserver l'intégrité du système d'asile et vous dites que sécurité et asile en Europe ne sont pas incompatibles. En fait, comme vous venez de le dire, il s'agit tout simplement d'un meilleur contrôle.
Tout à fait. Le contrôle est essentiel pour la sécurité des pays qui vont recevoir les réfugiés, mais aussi pour donner de la protection aux personnes vulnérables. Et justement, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés énonce précisément et exclut explicitement de son champ d'application les personnes ayant commis des crimes graves, y compris le terrorisme.
Le HCR forcément doit collaborer avec des forces de police internationales et autres. Lorsqu'il y a des demandes d'asile, est-ce que ces situations vont faire que vous allez être obligé de renforcer cette collaboration?
On est déjà en train de travailler ensemble dans des pays comme la Grèce, Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne et dans des autres pays européens aussi pour renforcer le système d'asile. Parce que justement, il faut trouver une manière d'assurer la sécurité et aussi les droits à l'asile.
C'était William Spindler, porte-parole du HCR pour l'Europe, joint à Genève par Nathalie Barge.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur les attentats du 13 novembre à Paris. La nouvelle stratégie d'attaque à l'extérieur du groupe État islamique marque-t-elle un tournant dans la guerre contre le terrorisme? L'OTAN va-t-elle être mobilisée? Des troupes au sol seront-elles cette fois-ci déployées? Quelles en sont les conséquences pour les réfugiés? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Intensifier les bombardements contre les cibles de l'État islamique en Syrie par la France, la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, est-ce la réponse appropriée pour juguler la menace terroriste? Éric Maniakiza a joint à Washington notre confrère spécialiste du Moyen-Orient, Émile Baroudi.
Il y a eu des opérations terroristes dans le monde arabe. Je parle de la Tunisie, de la Libye, de l'Irak, en Turquie, au Moyen-Orient. Tout ça est différent de ce qui se passe avec l'État islamique en Syrie et en Irak. Le danger est différent et la façon avec laquelle on doit répondre à ces deux possibilités complètement séparées doit être différente. Je ne vois pas en quoi une attaque des bombardements aériens d'opposition de l'État islamique en Syrie ou bien en Irak pourrait changer grand-chose à ce qui se passe, à ce qui pourrait se passer en Europe. À mon avis, les bombardements qui ont lieu maintenant sont un peu folkloriques. C'est pour mettre les gens à l'aise, pour qu'ils sachent qu'on fait quelque chose. Mais je ne vois pas de lien direct entre ces deux choses. Ces positions qui sont en train d'être bombardées en Syrie et en Irak sont des positions militaires. Ils auraient dû être bombardés avant, peut-être qu'ils le seront après. Il y a un ordre de priorité. Il y a beaucoup de forces aériennes qui sont en train de faire beaucoup de choses en Syrie et en Irak. Mais vraiment, je ne vois pas en quoi ça peut altérer les capacités de l'État islamique en Europe.
Barack Obama a encore une fois rejeté toute idée d'envoyer des troupes au sol. Son secrétaire d'État John Kerry a dit que la stratégie actuelle ne fonctionne pas. Qu'en pensez-vous?
Le défi de l'État islamique est important et un peu complexe. Complexe en ce sens que les États non islamiques qui pourraient, si vous voulez, se substituer aux États islamiques pour faire quoi que ce soit contre l'État islamique seront toujours reçus avec « Ah, c'est les croisés, ah, c'est les nouvelles croisades ». L'Europe, les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose dans la guerre des idées que présente l'État islamique dans le monde islamique en soi.
Et quelle est la solution efficace pour répondre à ce défi?
La meilleure serait que le monde musulman s'implique plus profondément dans cette guerre des idées. Il faut que les ulémas modérés soient plus présents sur les télés, dans les prêches des vendredis, quand l'État islamique dit qu'une attaque, disons les bombardements aériens contre ses bases sont une croisade. Il faut que le mufti d'Arabie Saoudite sorte dire non, ce n'est pas vrai. Ce qui est mauvais pour le monde islamique, c'est quelque chose comme Daesh. Il faut que ce soit dit et il faut que ce soit dit plus souvent. Il faut que ce soit dit tout le temps. Il ne faut pas désespérer. En Europe, il faudrait aussi travailler sur diminuer la marginalisation de la jeunesse islamique. C'est un peu comme ce qu'il y a eu aux États-Unis avec les Noirs. Il y a eu un moment où les Noirs étaient un peu déçus. Ils ne voulaient pas rentrer dans le système et tout. Mais il a fallu beaucoup d'efforts et 20, 30 ans plus tard, les Noirs refont partie de la société américaine.
C'était Émile Baroudi, journaliste spécialiste du Moyen-Orient, joint par Éric Manirakiza. À Bamako se tient encore pour deux jours la réunion annuelle de l'initiative des Nations Unies pour la scolarisation des filles. Madame Maïga Kadidia Babi est spécialiste du réseau Forum of African Women Educationalist et coordinatrice nationale de FAE Mali. Elle est ancienne coordinatrice nationale du projet de la scolarisation des filles pour le même pays. Elle parle des objectifs de la réunion, des enjeux et pourquoi avoir choisi le Mali.
C'est un forum qui a été organisé par Ounge Blanc et UNICEF et qui a convié d'autres partenaires tels que FAE, qui est le forum des éducatrices africaines. C'est un forum qui a pour objectif de parler de la création d'éducation des filles en Afrique en général, au Mali en particulier, parce que c'est un forum sur le Mali post-crise, pour voir depuis la crise de 2012 et dans le cadre de l'agenda post-2015, qu'est-ce qui est prévu pour l'éducation des filles, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous devons faire pour aller vraiment de l'avant.
Après plus de 25 années de lutte, peut-on dire aujourd'hui qu'il y a eu des progrès notoires dans le domaine de la scolarisation des filles au Mali? Le niveau a-t-il évolué?
Le niveau, il est assez moyen parce qu'une cohorte de 100 élèves, c'est peut-être 46 filles seulement qui vont finir leur cycle et qui sont effectivement dans le système. 46%, c'est peu. Nous savons, c'est vrai que la crise y a contribué parce qu'avec la crise, les trois régions du Nord ont été complètement fermées. Donc, filles et garçons n'avaient pas accès à l'éducation. D'autant plus que les filles étaient déjà en situation de défaveur pour la disparité. Ça a aggravé leur situation. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la situation, elle est pénible pour nous qui nous battons tous les jours pour cette problématique en laquelle nous croyons énormément parce que moi, je crois vraiment que le développement passe par l'éducation de la femme parce que la fille, c'est la future femme. Si nous tenons compte vraiment du statut de la femme dans la famille, vraiment du rôle de la femme sur le plan entretien familial, sur le plan sanitaire, sur le plan éducation, les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, passent déjà par la maman d'abord pour pouvoir s'émanciper d'elle si ce sont les garçons à un certain âge. Donc, cette maman, si elle n'a pas les compétences de base, elle n'est pas éduquée. C'est-à-dire qu'il faut avoir le minimum, c'est ça qui est extrêmement important. Le mieux, c'est d'avoir l'éducation jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce qu'elle termine. Mais vraiment, à défaut de ça, qu'elle ait accès au moins à l'instruction. qu'ils aient les connaissances de base.
Quels sont les enjeux de ce forum pour le Mali?
Les enjeux, c'est d'abord le fait d'amener tous les partenaires autour de la question. Nous en sommes très, très contents parce que ça veut dire que c'est en train d'être pris à un autre niveau. C'est vrai qu'il y a déjà l'engagement du gouvernement, il y a l'engagement de la société civile malienne, mais aujourd'hui, nous avons quand même des partenaires venant de partout. Ongay, c'est quand même l'initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles, c'est mondial. Donc, avec le bureau régional de l'UNICEF, l'UNICEF ici, plan international, FAWE, qui est le forum des éducatrices africaines, toutes ces organisations vraiment qui s'activent autour de la problématique sont là aujourd'hui pour voir où est-ce que nous en sommes vraiment, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant, qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment pour améliorer la situation. Pour nous, déjà, la tenue de ce forum est une note d'espoir en soi. Et pendant 3 jours, nous serons là jusqu'au 19. En tout cas, nous allons faire tout pour que des résolutions très fermes puissent être prises et nous allons faire le suivi de ces résolutions. Et avec l'État et avec les PTF et avec la société civile, chacun jouera sa partition pour que vraiment la situation d'éducation des filles soit ce que nous attendons. Elle est essentielle.
C'était Maïga Khadidia Babi au micro de Kadiatou Touré.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Les investissements chinois en Afrique ont chuté de plus de 40% durant le premier semestre. Le ralentissement économique du géant asiatique a entraîné une baisse drastique de sa demande en matières premières. Pour une analyse, Nicolas Pinault a joint Sébastien Lebelzi, qu'il dirige le site Chine Afrique Info.
Ce n'est pas une surprise, on s'attendait à une chute brutale de cet ordre-là. Il faut savoir que depuis le début de l'année, on a senti un ralentissement considérable de deux éléments principaux. D'abord, effectivement, ces investissements directs étrangers en Afrique, donc qui concernent la Chine. Il faut savoir qu'essentiellement, ce sont des investissements dans les infrastructures minières et pétrolières. C'est-à-dire que les grandes entreprises d'État chinoises investissaient énormément en Afrique afin de sécuriser leur approvisionnement. Ça veut dire que lorsqu'ils construisaient un puits de pétrole ou qu'ils exploitaient une mine, il y avait autour toute une série d'investissements comme des routes, parfois des écoles, des barrages pour l'électricité. Et donc, ça générait de gros flux d'investissements dans ces pays africains. Et donc, cela a considérablement baissé et c'est lié en fait au deuxième élément de ces statistiques. C'est lié à l'effondrement de la demande chinoise en matières premières qui a chuté, elle, depuis le début de l'année, de 43%. Donc, c'est une baisse énorme de la demande chinoise. Et c'est donc ce contre-coup qui provoque aujourd'hui l'effondrement des investissements chinois.
Alors la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 2009, mais au-delà de l'économie, est-ce que la Chine a aussi finalement développé son partenariat culturel avec le continent africain ?
Ces investissements économiques ont généré un afflux important de populations chinoises, expatriées, diplomates, ouvriers sur place. On parle de 2 millions de ressortissants chinois installés sur le continent africain. Et donc également, il y a une certaine curiosité également des Africains, puisque les étudiants africains constituent la première population de boursiers en Chine. La Chine est la première destination pour les étudiants africains qui partent étudier à l'étranger depuis cette année. Et donc, effectivement, derrière ces échanges économiques, il y a des échanges culturels, il y a des instituts Confucius qui sont construits un peu partout dans lesquels on apprend le mandarin, parce que pour faire des affaires avec la Chine, il faut parler chinois, tout simplement. Et donc, effectivement, il y a toute une série d'échanges économiques, culturels, mais aussi politiques qui sont mis en place derrière cette Chine-Afrique, finalement.
Vous parlez de politique. Pékin avait toujours tracé la ligne du non-interventionnisme dans les affaires africaines. Est-ce toujours le cas, selon vous ?
Là encore, les lignes sont vraiment en train de bouger, puisque la Chine ayant tellement investi sur le continent africain, elle se doit de sécuriser ses investissements. Lorsque l'on dépense des centaines de millions de dollars pour construire une raffinerie au Sud-Soudan, par exemple, on doit absolument la protéger des pillages, mais également maintenant des attaques terroristes. Donc la Chine a commencé à évoluer sur ce terrain. Là. De deux façons. D'abord, elle a pris de plus en plus d'importance dans les opérations de maintien de la paix en Afrique, notamment, et donc maintenant c'est un grand pourvoyeur du casque bleu sur le continent africain. Elle est présente au Mali, elle est présente au Sud-Soudan, et donc elle constitue maintenant, elle alimente les casques bleus avec des troupes combattantes, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et le deuxième point, c'est une évolution très importante, c'est les négociations qui sont en cours actuellement pour l'installation d'une base militaire chinoise permanente à Djibouti, juste à côté de la base militaire américaine de Caen-le-Monnier. Un général chinois était là-bas le week-end dernier pour négocier les derniers détails avec le gouvernement djiboutien. Donc il devrait y avoir très prochainement une base militaire permanente à Djibouti, à côté de la base militaire américaine, de la base française et de la base japonaise. Donc Djibouti va véritablement devenir un carrefour militaire dans cette corne de l'Afrique. Alors les Chinois disent que c'est d'abord pour participer aux opérations anti-piraterie dans le golfe d'Aden et donc protéger leurs porte-containers, mais évidemment lorsqu'on a des troupes dans la région, on ne peut pas s'interdire d'avoir certaines opérations militaires si jamais on venait à attaquer des expatriés chinois sur le continent par exemple.
Sébastien Lebalzik, joint à Pékin par Nicolas Pineau. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.